Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée encore une fois, et j'espère que ce sera la dernière, à l'émotion suscitée par l'assassinat odieux du professeur Samuel Paty. Nous sommes à quelques jours de ce drame. Après l'émotion, la sidération, la révolte, l'indignation, le temps de l'analyse, d'en parler calmement, sereinement, mais avec détermination et résolution pour venir à bout du terrorisme islamiste abject. Cette émission spéciale réunit trois acteurs, d'abord citoyens, notre horizon est la nation française, et pourquoi pas le monde, dans une fraternité humaine, et ce sont des acteurs aussi de la tradition religieuse islamique qui vivent sereinement et tranquillement, d'une manière apaisée, au sein de la nation. Tout d'abord, le journaliste juriste Tariq Mami. Tariq Mami, bonjour.
Bonjour Ghalib, merci pour cette invitation dans ces circonstances dramatiques.
Vous êtes un homme de médias et de presse, vous dirigez vous-même une radio, France Maghreb 2. Vous êtes, en dehors de votre formation de journaliste et de votre profession juriste, et vous vous êtes essayé et intéressé à l'islamologie, vous êtes un fin connaisseur du doxographe et du polygraphe Shahrastani, l'auteur des sectes et des factions, et vous connaissez bien aussi l'autre polygraphe Ibn Hazm, un homme à la charnière du 10e-11e siècle. C'est dire que ces questions ne vous sont pas étrangères, et vous êtes, comme je l'ai dit, un acteur citoyen de la question de l'islam en France. À vos côtés, la jeune professeure d'art, artiste elle-même, spécialiste du street art, et aussi doctorante en anthropologie, Hajj al-Musbah. Bienvenue à vous.
Merci beaucoup Khaled pour votre invitation.
Elle est tout à fait naturelle et vous allez nous parler de votre expérience. Vous vous adressez à un jeune public comme professeur. Vous intervenez aussi dans le milieu carcéral et vous êtes dans une approche de dialogue interconvictionnel, interreligieux, interindividuel au sein de la nation. Et je remercie aussi notre troisième invité, Eliamin Setoul. Bonjour Eliamin.
Bonjour Ghalib, c'est un plaisir d'être ici, comme à chaque fois que tu m'invites.
Merci. Vous êtes tous les trois bienvenus. Vous êtes maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes sociologue et politiste, mais vous êtes aussi dans la chaire de criminologie. C'est dire que votre regard d'universitaire nous est précieux. Hajar, Tariq et Eliamin. Je commence par vous, Tariq. À chaque fois, nous pensons que c'est la dernière fois. Là, nous avons encore connu, et sans aller dans des mots qui, peut-être, dans leur grandiloquence, risquent de sonner creux, on a atteint l'acmé de la barbarie. Il faut en finir de ce type de comportement. Quel était votre sentiment ?
Mon sentiment, cher Ghalib, chères auditrices, chers auditeurs, a été, dès que j'ai eu la nouvelle, de faire arrêter la programmation de notre radio usuelle, habituelle, un vendredi, pour la faire réserver sur cette question des terrorismes. J'ai moi-même fait quelques minutes après un édito de quelques lignes parce que ma raison d'abord, ma passion ensuite, ne pouvait pas accepter l'inacceptable. Et dans notre métier, dans nos métiers, notre purge à nous est le clavier, les stylos, l'écriture, pour dire ce qu'on ressent sur le moment. Et donc mon petit texte, je ne le lirai pas en totalité, mais juste deux ou trois phrases. C'est le terrorisme ne peut trouver aucune excuse, aucune justification. C'est le titre. J'y rajoute que la profession de la victime ajoute de l'ignominie à l'horreur. Un assassinat par décapitation, un drame, une barbarie injustifiable, impardonnable à jamais. Le jamais étant là pour nous dépasser, nous, aujourd'hui, ici et maintenant, pour que ça devienne éternel. L'intolérance n'a pas de justificatif et beaucoup pensent que la République, l'État, ce sont les forces de l'ordre, police et armée, armée et police, la justice et quelques administrations, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le pouvoir régalien. Et on oublie tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, que la République, c'est l'enseignement, l'éducation, et ce sont ce que j'appelle, moi, les distributeurs de savoir, les formateurs des futurs citoyens, des républicains de demain. Et donc, en assassinant ce professeur, on assassine une partie de nos nouvelles générations de France, la République et ceux qui prônent le bien vivre et le bien faire ensemble. Nous avons tous connu dans nos livres d'histoire le hussard noir. Faut-il aujourd'hui que nous ayons de nouveaux hussards pour notre jeunesse française?
Père Mami, ce que vous nous dites là est juste, et à la réaction immédiate qui est celle des forces de l'ordre, des forces de renseignement et qui ont déjoué d'autres attentats, il y a bien entendu la réaction aussi éducative, culturelle, la formation des citoyens. Et c'est pour ça le fait de s'attaquer à un enseignant, à un professeur, est quelque chose aggravant, d'immonde. C'est ce qui explique l'indignation générale et l'émotion réelle. Hajar Mosbah, quel a été votre sentiment à vous aussi?
Au moment où vous m'avez envoyé un message pour venir intervenir, j'étais en train de retour de Lourdes. On a passé un week-end magnifique entre chrétiens et musulmans. On a prié ensemble, on a échangé. On était dans un nuage de fraternité incroyable et on n'avait pas accès à nos téléphones. On a vraiment oublié les réseaux sociaux, l'information. Et je rentre à Paris et j'entends ce qui s'est passé. Et là, c'était la chute, parce que j'avais ce sentiment d'atterrir, en fait, à une réalité qui est là, en fait, et qui était, qui m'a choquée doublement en tant qu'être humain, tout d'abord, et en tant que musulmane aussi, d'autant plus, puisque ces personnes, ils croient qu'ils défendent une certaine manière de voir l'islam, alors qu'en réalité, c'est détruire, en fait. Détruire le message fondamental de ce que peut être l'islam. Du coup, ça m'a beaucoup touché profondément. Et surtout que c'est destiné à un professeur où c'est vraiment le centre de tout enseignement, le centre de la République, le centre de l'humanité elle-même, en fait. Et du coup, c'était très dur, oui.
Yemin Setoul s'attaquait à un professeur, s'attaquait à l'école de la République, c'est le pas de trop, c'est le dernier bastion des attaques terroristes islamistes ou...
Alors moi, j'ai appris la nouvelle, j'étais à Canteleu, dans la banlieue de Rouen, en train de participer à une espèce de ciné-débat avec des jeunes qui avaient fait une exposition sur le thème de la radicalisation et dont l'objectif était de mettre en valeur l'importance de la culture et du savoir pour lutter contre toutes les formes d'obscurantisme et de fanatisme. Donc j'ai traversé plusieurs sentiments, la consternation, la sidération, enfin d'abord la sidération d'ailleurs, avant la consternation, et puis aussi des sentiments de solidarité par rapport au corps enseignant, puisque moi-même, je suis, même si je suis à l'université, je suis professeur. Oui, le pas de trop et en même temps un pas qui a été théorisé hein, dès le début des années 2000 par les grands penseurs, entre guillemets, de l'idéologie de l'État islamique, etc., qui ont fait des militaires et des policiers occidentaux des cibles, mais aussi des enseignants. Dans le sens où ils transmettent un savoir critique, ils transmettent un esprit critique. Donc ils sont attaqués à un sanctuaire et c'est peut-être ça qui fait le plus mal au final. Un sanctuaire et ils ont attaqué quelqu'un qui était complètement désarmé. Et je crois que c'est ça qui est le plus choquant finalement.
Oui, ce qui est aussi choquant, c'est que non seulement le criminel, et ça ne justifie en rien, est un ignare inculte, il ne sait pas la place du maître, du professeur, de celui qui dispense la connaissance et le savoir. Pour une fois, ou rarement, je vais le dire en arabe et je le traduirai, c'est ce fameux vers du prince des poètes, Ahmed Shawki, okay, décédé en 1932, et qui disait « Lève-toi et marque ton respect et ta déférence pour le professeur qui a toute prééminence, car le professeur a failli être un prophète, et peu s'en faut. » C'est qu'il ne connaît pas la place du professeur et de l'enseignant dans la tradition islamique. Mais Tariq Mami, vous ne pensez pas aussi que la responsabilité morale, pénale de ceux qui ont amplifié les appels à la délation et ont mis sur les réseaux sociaux l'adresse et puis le fait de charger ce professeur?
Alors, si je peux me permettre, cher Releb, il y a deux ou trois choses que j'ai toujours en réflexion. La première des choses, c'est quand je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas la culture musulmane, parce que pour moi...
J'ai oublié de le dire en arabe, le vers, c'est... Comme les mu'allimi wa fihi tabjila, kad al mu'allim wa yakuna rasoula.
Alors, quand je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas rencontré cette culture, parce que pour moi, il y a de la confusion avec le mot islam. Est-ce qu'on parle d'islam religion, d'islam culture, d'islam civilisation, et nous sommes sur France Culture? Beaucoup ne savent pas que la culture a pris le dessus, dans le cadre de la civilisation, sur la religion. Et tant qu'on n'a pas disséqué ces trois termes, il y a un triptyque de la République, il y a un triptyque dans l'islam. Et ceux qui ne savent pas de bonne foi, ou manipulent l'existence en la dissimulant, on appelle ça l'épistémicide, on cache ce qui peut être valeureux, je dis, et je ne fais pas de la propagation religieuse, mais je fais de la propagation culturelle et textuelle. Savez-vous quel est le premier verset du Coran? Ben, le premier verset du Coran est « Iqra » en arabe, « lit » en français, et quand on dit « lit », ça ne veut pas dire « répéter » ou « annoncer », ça veut dire « lit », « comprends », « interprète », « fais ton exégèse », en clair, sois un esprit libre. Et qu'est-ce que c'est que la République? Qu'est-ce que c'est que l'école laïque? C'est signé « former des esprits libres ». Et donc, on a parlé de ce prof, une pensée, ça se bouscule, devant un drame, ça se bouscule. Une pensée à Tahar Djaout, le grand écrivain, poète algérien, qui écrit juste avant de mourir, « Tu parles, tu meurs. Tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. » Et c'était déjà contre l'intégrisme religieux islamique. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, en tout cas il y a quelques jours, a dit une phrase terrible. Il dit que certains, au moins deux personnes, le père et la personne qui l'accompagnait, ont manifestement publié une fatwa en donnant l'adresse. Je suis tenté de dire qu'il y a peut-être une part d'inconscience, mais j'allais dire chacun assume sa part d'inconscience. On ne peut pas donner le nom d'un professeur, ni l'adresse de son école. Et donc, quelque part, complicité, appel à, les juges jugeront, et quand ils auront le dossier, ils se poseront une seule question, et c'est le juriste qui la pose cette question. Est-ce que cette dénonciation, est-ce que cette indication a entraîné en définitive la mort ou pas? Si la réponse est oui, on connaît tous la conséquence. Si la réponse est non, ils sont relaxés. Mais vu les circonstances, c'est au moins une incitation à la haine, à défaut d'autre chose. Et chacun de nous doit savoir que ces réseaux sociaux ne sont plus aujourd'hui un instrument de culture et d'échange, mais un instrument où la haine à 90% subsiste. J'ai une interrogation pour le gouvernement, pour l'État. Peut-on se permettre de laisser des anonymes s'exprimer parce qu'ils n'oseraient pas dire les mêmes choses en face? Peut-on se permettre de laisser des réseaux sociaux américains, non nationaux, non français, décider des règles du jeu sur les réseaux sociaux? Est-ce que les États aujourd'hui et l'Europe et la France ne pourraient pas fixer la règle? Aux États-Unis, ils ont l'amendement numéro 1 sur la liberté d'expression. Nous, nous avons en France les lois de 1881 et de 1986. Est-ce qu'on ne peut pas obliger n'importe qui, et j'en terminerai là, à remplir un formulaire avec sa vraie identité, son nom, son téléphone? Peut-on accepter que quelqu'un conduise une voiture ou un taxi sans permis de conduire? Peut-on accepter l'ouverture d'un magasin de coiffure sans diplôme? Ben, on fait deux choses en France. On ouvre un réseau social quand on veut, et excusez-moi l'expression, on ouvre un lieu dit de prière qu'on appelle mosquée, sans en avoir les compétences.
Oui, Tariq Mami, vous avez raison aussi d'interpeller les pouvoirs publics sur cette jungle que sont les réseaux sociaux. La responsabilité, je pense que c'est plus que de l'inconscience, notamment de ceux qui ont mis en ligne l'adresse et le nom du professeur supplicié. Et ça, la justice se déterminera dans un état de droit et dans une société civilisée. On ne se fait pas justice soi-même, on tranche les affaires devant les tribunaux. Hajar Mosbah, vous qui êtes artiste, avec votre fibre d'artiste, vous alliez à la fois l'art et aussi la science, et vous êtes doctorante en anthropologie, vous enseignez aussi à des jeunes gens et aussi dans le milieu carcéral. Comment perçoivent-ils vos élèves et l'auditoire auquel vous vous adressez l'art que vous leur enseignez?
Justement, le projet de l'association avec qui je travaille, le projet Mixart, c'est un projet éducatif agréé par le ministère de l'Éducation nationale, où c'est autour du street art comme outil, mais pour diffuser des valeurs de vivre ensemble. Du coup, toutes nos activités artistiques sont autour de cette thématique. Avec les élèves, avec les jeunes mineurs incarcérés, j'arrive comme artiste qui porte un savoir-faire, mais je porte des outils. Mais la discussion, c'est vraiment le travail pédagogique, éducatif, de discussion profonde avec ces jeunes. Et surtout, au milieu incarcéral, c'est vraiment à chaque fois des expériences incroyables parce qu'ils en ont besoin de discuter, qu'on les écoute aussi et qu'on leur permette de poser les bonnes questions. On pose la thématique du vivre ensemble et on essaye de voir qu'est-ce que ça signifie pour eux. Et là, ils expriment les problématiques qui vivent à leur quotidien et on essaye
Vous les faites accoucher.
Exactement, par rapport à ces problématiques, souvent autour de la liberté, de la solidarité, de l'égalité, filles, garçons, de tous les préjugés qu'on peut y avoir, de la diversité culturelle, religieuse. Et à la fin de l'atelier, c'est les jeunes ou les élèves qui décideront de ce qu'ils veulent présenter sur le mur de la prison ou de l'école pour passer un message à tout le monde. Du coup, cette démarche n'est pas seulement créative, mais aussi porte. J'ai vu de mes propres yeux en fait l'impact en fait de quand on donne aux jeunes des moyens d'expression, on les écoute. Humainement, le changement que ça peut y avoir.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, une émission spéciale suite à l'assassinat odieux du professeur Samuel Paty, auquel nous rendons hommage, mais nous essayons après la sidération et l'émotion, ainsi que l'indignation et la révolte qui suivent en pareil cas, d'avoir une analyse. Et j'espère vraiment qu'on en viendra à bout, que ce sera la dernière avec vous. Yamine Setoul, comment percevez-vous, vous qui êtes dans cette chaire de criminologie, les mécanismes qui fonctionnent sur le plan psychique de ces individus dont on a fragilisé les esprits en parlant du blasphème comme une atteinte à leur sacré et à leur religion?
Je crois qu'il faut... En tout cas, pour beaucoup de cas, il faut articuler... l'adoption de ces idées radicales à une expérience de vie souvent problématique, parfois chaotique. On a beaucoup de jeunes qui s'enferment dans des visions un peu dichotomiques, binaires du monde, eux et nous. Donc une vision sans nuance, une vision monolithique et forcément une vision appauvrie de la réalité sociale. Et qui, in fine, adoptent une grille de lecture religieuse qui fait écho à leur ressenti intime en fait. Qui a un écho d'altérité totale, quoi. Donc, je dirais que ce terreau est particulièrement favorable à l'adoption d'une idéologie comme celle du djihad. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est très souvent, parce que j'interviens également comme Hajar en prison, je vois des jeunes qui sont dans une méconnaissance de leur histoire familiale. Une méconnaissance... donc, il y a une rupture de transmission quelque part. Et je pense qu'on gagnerait à mieux travailler cet ancrage, cet enracinement. D'ailleurs, au passage, l'étymologie du mot radical, c'est radix en latin, ça veut dire revenir aux racines. Et puis une vision de la religion, de l'islam, assez monolithique, assez statique. Donc quand j'interviens en prison, j'aime bien travailler comme un sociologue en montrant toute la diversité possible des manières de vivre son islamité. En expliquant par exemple qu'être musulman aux États-Unis, au Brésil ou à La Réunion, c'est pas la même chose. Et que c'est toujours articulé à un contexte sociétal. Et souvent, ils sont assez contents de voir toute cette diversité et de la découvrir, en fait, parce qu'ils la découvrent souvent.
Tarek Mami, comment explique-t-on à ces jeunes gens, notamment, que les questions identitaires ne peuvent pas être épuisées uniquement dans la donne religieuse, laquelle donne religieuse, et vous nous l'avez dit, ne se réduise pas non plus à une question de normes canoniques qu'on doit observer jusqu'à l'obsession, parfois une obsession névrotique, et qu'il y a tout un pan de culture et de civilisation Et s'ils ne les maîtrisent pas, ben, ça les appauvrit et ça les pousse à être des gens fanatisés.
Alors d'autres sociologues, et j'en suis pas, parlent du capital culturel des enfants à la naissance et de la transmission. Pierre Bourdieu parlait, lui, de la reproduction sociale. Que le fils de l'ouvrier reste ouvrier, que le fils de médecin devient médecin, avec les codes de la République qui permettaient d'espérer ce qu'on appelait l'ascenseur à un certain moment. On espérait que le fils de l'instituteur ne devienne pas instituteur, mais directeur d'école primaire. Et que son fils à son tour devienne professeur des collèges. Que son fils à son tour, professeur du lycée. Et qu'en 3-4 générations, le fils de l'ouvrier, le petit-fils de l'ouvrier, devienne un grand professeur d'université. Alors, on a l'impression que ce lignage est cassé. Et beaucoup d'autres avant moi avaient parlé de la fameuse expression que l'ascenseur est en panne. À cet ascenseur de la société française, occidentale, de tradition catholique, parce qu'il faut aussi rappeler les repères des histoires des peuples, sont venues des immigrations polonaises, italiennes, espagnoles, portugaises, dans le sceau, dans une armoire dite catholique. Et moi, j'ai lu, quand j'étais beaucoup plus jeune à la fac, que beaucoup de patrons français de l'époque étaient surpris de voir leurs ouvriers le dimanche dans une église et que les rapports de patrons avec ces ouvriers ont changé parce qu'ils ne voient plus l'ouvrier, mais ils voient le confrère de la même religion et donc l'estime est montée. Et vous avez donc l'immigration post-indépendance de l'Algérie, parce que moi je marque l'histoire de la France d'aujourd'hui, je sais que beaucoup ne partageront pas la vision, mais la date de départ est la colonisation de l'Algérie en 1830, et le clap de fin de ce film, c'est 1962, indépendance de l'Algérie. Et c'est ce qui s'est passé entre ces deux dates, et après cette date, qui permet, j'allais dire en termes de sociologie politique, pas de sociologie de cours, de comprendre. Vous savez, la loi de 1905, adoptée par la France, inscrite dans la loi comme quoi elle allait être appliquée dans les droits départements algériens de la France. Vous avez le petit-fils de l'émir Abdelkader qui, en 1925, crie « S'il vous plaît, appliquez cette laïcité en Algérie ». Vous avez la même chose en 36, vous avez la même chose en 40, et cette loi n'est pas appliquée. Ce n'est pas pour jeter de discrédit sur les uns et les autres, mais le rappel historique permet de comprendre. Et vous avez donc cette année 62, ceux qui croyaient que les ouvriers importés, et j'utilise le mot exprès, du Maghreb et d'Afrique, étaient des êtres asexués, donc ils allaient travailler et repartir, pas se marier, pas faire des enfants, se sont rendus compte qu'il y a des enfants, vous avez la fameuse loi Stoléry, prends 10 000 balles et casse-toi, et le drame, c'est que quand ces enfants sont nés, il n'y a pas eu ce qu'on peut appeler la transmission de savoir, de culture et de la bonne religion musulmane. Et donc, tout ce qui était à côté de la religion est devenu la religion. C'est-à-dire, l'importance du ramadan n'était plus dans le côté spirituel et l'abstention, c'était dans le festin à l'heure de la rupture. Et quand vous avez la culture qui prend le dessus sur les normes, qu'il n'y a pas de transmission, que les parents n'avaient pas les moyens intellectuels de le faire, que la société n'a pas accompagné, et que la République, encore une fois, parce qu'il faut qu'elle assume aujourd'hui pour demain, laisse ses enfants pris en main par ce qu'on appelle les pays d'origine. Pays d'origine pour quelqu'un qui naît en France, c'est la France. Donc ce sont toutes ces questions que peut-être me pose moi question interrogation. Et je dirai tout à l'heure, si vous permettrez, à la fin de cette émission, que pour moi, ce qui s'est passé est peut-être un choc salutaire, un électrochoc pour que chacun assume son rôle dans cette société.
Une vie humaine est une vie humaine et il ne faut pas qu'elle soit vaine, oui. Surtout une effusion de sang de cette manière aussi dramatique. Palk Mami, vous étiez dans une analyse plutôt sociologisante ou sociologique, afin de comprendre pourquoi sommes-nous arrivés à cela. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment dépasser, comment aller de l'avant et ne plus jamais vivre au sein de la République et au sein de la nation française qui est suffisamment traumatisée des drames de cet ordre. Hajar Mosbah, comment justement voyez-vous l'avenir? Est-ce qu'il faut davantage d'enseignement, de prise en charge sociale, culturelle, éducative de cette jeunesse pour les immuniser contre le fanatisme, contre les idées mortifères? Nous l'avons toujours dit, ça fait 2 décennies que nous le disons, davantage, peut-être 3. Comment voyez-vous les choses? Plus de fermeté, le rôle des corps religieux pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette foi fragile qui est ébranlée par des questions de blasphème? Comment voyez-vous les choses?
Moi, je voudrais partager avec vous une expérience en prison aussi. On avait un jeune un peu radicalisé et il sortait des propos « je veux défendre telle cause et telle cause et telle cause ». Je lui dis « mon ami, calme-toi, calme-toi. Avant de parler d'une cause qui est lointaine, parle-moi de toi, parle-moi de ton intérieur, comment il est ?» J'ai vu dans son regard, il était sidéré et il m'a regardé. Il était silencieux, il m'a dit « tu sais, mon intérieur est noir et sombre ». Je lui ai dit « ah, ben il faut commencer de là, avant tout ». Je lui ai dit « même Dieu ».
Auquel tu crois ?
Auquel je crois.
Tu dis croire, tu dis croire.
Et lui aussi, parce qu'il se référait, oui, la cause de Dieu, etc. Je lui ai dit « même Dieu ». Il demande dans son Coran que Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne prennent eux-mêmes.
Tant que ce peuple ne change pas en lui-même.
Oui. Exactement.
Le fameux verset 13 de la sourate 15, la sourate du tonnerre. Dieu ne modifie pas ce qu'il y a dans un peuple si pris individuellement, les membres de ce peuple n'entreprennent pas un changement en eux-mêmes.
Et à cet instant-là, il s'est calmé. Et après, on a eu une discussion, et ce que j'ai remarqué dans les prisons même, dans les écoles, il y a toujours un rapport de force de domination qui veut marquer son territoire, montrer que je suis le plus fort, celui qui conduit. Et je leur parlais qu'en fait, non, le fort, c'est pas celui qui montre ses abdos, mais celui qui contrôle sa colère. Et je me rappelle, un des jeunes, il m'a dit, tu sais, Hajar, on nous a jamais dit ça. Et j'ai vu dans son regard, parce qu'il y avait là une discussion, et j'ai vu dans son regard que il découvrait des choses que on lui a jamais enseigné ces choses-là. Et je crois qu'on a le droit, non seulement les professeurs, mais tous, en tant qu'êtres humains dans cette société, en tant que personne qui existe dans ce monde, de porter tout d'abord ces valeurs en soi. Parce qu'on n'enseigne pas ce que l'on sait, mais ce que l'on est.
On enseigne par son état d'être.
Ouais. Exactement. Et du coup, porter déjà ses valeurs et dire les choses comme
Par Tariq venait de le dire, oui.
Dire les choses, et peu importe que ça peut nous coûter, mais les dire fort, parce que c'est ça la vraie force aussi.
Oui. Yamine Setoul, vous ne pensez pas que ces frictions, ces convulsions, parfois paroxystiques, qui mènent au crime et à la terreur, finalement, d'aucuns nous disent « vous avez la mémoire courte », c'était le cas avec le christianisme, peut-être pas à ce degré, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'affrontements au moment de la promulgation de la loi de séparation, et que on a intégré dans la théologie catholique notamment, mais pas uniquement, la notion de blasphème, la notion de liberté de conscience, et qu'il est temps maintenant que ça soit aussi intégré et compris dans l'univers mental et théologique islamique.
Oui, effectivement, la France a cette particularité, je dirais, dans son ADN culturel, d'avoir entretenu une histoire extrêmement violente, extrêmement tumultueuse avec le culte catholique, notamment depuis la Troisième République. Hein, la loi de séparation, ça a été extrêmement, extrêmement violent. Et on a le sentiment que dans la société française, le rapport religieux est structurellement compliqué, avec toutes les religions, en fait. Ça, c'est peut-être un élément, je pense, explicatif pour comprendre véritablement la difficulté en France à évoquer le religieux, même tout ce qui est signe visible du religieux. En France, ça cristallise beaucoup plus de tensions que dans d'autres pays européens ou nord-américains, où on peut croiser des fonctionnaires avec des signes religieux sur la tête et ça pose pas forcément de soucis. Donc je pense qu'on devrait essayer de décrisper le débat déjà par rapport aux faits religieux. Et puis après, il y a toute la question de la cohésion sociale, comment on recrée des espaces de brassage social. Savoir que la République française s'est construite sur deux piliers principalement, hein. C'était l'école et l'armée. L'école tend à se polariser aujourd'hui, à travers des écoles entre guillemets de riches et des écoles de gens modestes ou de pauvres. Donc il y a une forme de ghettoisation. Et l'armée a été suspendue, enfin le service national a été suspendu en 1996, donc on est désormais dans une armée professionnelle. Et donc ces espaces, ces instances qui contribuaient à faire en sorte que le français de banlieue rencontrait le français de la campagne, le fils de médecin rencontrait le fils d'ouvrier, et ben ça a disparu. Parallèlement à ça, on a les syndicats, comme l'a dit Tarek, qui ont beaucoup décliné depuis les années 60. L'église qui n'est plus fréquentée. Donc tous ces espaces qui contribuent à faire en sorte qu'on se rencontrait pendant un temps donné et qu'on constatait concrètement qu'on avait finalement des choses en commun, tendent à disparaître. Donc à mon sens, il faut réfléchir sur comment recréer du brassage social. On parle du service national universel, par exemple, c'est une des pistes, mais c'est aussi des politiques sociales, des politiques urbaines, etc. etc. Et puis il faut aussi que la République ait un discours cohérent. On en a déjà parlé. On peut pas demander, enfin d'un côté reconnaître que la France est une république une et indivisible qui ne reconnaît aucune communauté, et de l'autre enjoindre les Français de confession musulmane à condamner collectivement les actes d'un taré, parce qu'il y a là une contradiction pour pas dire une forme de schizophrénie.
La fameuse injonction paradoxale. Oui, c'est vrai. Toutefois, et le toutefois n'est pas une restriction par rapport à ce qui doit se passer au sein de la République, la responsabilité, peut-être non pas de l'ensemble des musulmans de France et qui ne demandent rien à personne si ce n'est que de vivre pleinement leur citoyenneté, mais le fait de voir leur propre tradition dévoyée, prise en otage, avilie, pervertie par ces actes ignominieux depuis des lustres, aussi bien en France que de par le monde, quels sont leurs porte-parole, leurs responsables, leurs hiérarques, que doivent-ils, Tarek Mami, faire? Ils ont commencé à parler ces derniers temps, ne portent-ils pas une lourde responsabilité depuis quelque temps?
Nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes ce que nous apparaissons, nous sommes ce que les autres prennent de nous comme image. Une fois ceci dit pour nous, il faut aussi dire qu'il faut sortir de beaucoup de confusion. Pour le citoyen français lambda, et je m'excuse pour l'expression, islam, islamisme, musulman, tout ça c'est la même chose. Peut-on faire un peu de gris et un peu de nuance et dire qu'aujourd'hui dans ce pays, il y a des citoyens français de confession musulmane et d'autres de culture musulmane et que les deux cercles ne se touchent pas forcément tous les temps en termes de pourcentage. Et donc l'État, la République, les responsables religieux veulent s'adresser à qui ? Ils doivent s'adresser à ceux qui se reconnaissent dans la confession de la région, parce que les autres sont hors de portée. Vouloir prétendre que ce soit du côté de la République ou de représentants du culte musulman s'adresser à tous est déjà une grande tromperie. Et comme dirait l'autre, on ne sort de toutes les ambiguïtés qu'à ses dépens. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut que nous fassions tous ensemble citoyens, et non pas citoyens religieux, un soc solitaire, comme vous l'avez dit, cher Ghaleb, au début, pour que nous y mettions ensemble l'espoir que ce geste, cet assassinat abject, soit le dernier d'une longue, longue, longue liste. Il y a deux solutions, à mon sens. Je ne suis pas acteur, je suis analyste ou je suis citoyen qui regarde. Il y a l'auto-organisation. Est-elle possible? Je pose des questions, je n'ai pas de solution. Ou le concordat forcé, que beaucoup rejettent. Peut-être qu'à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, et peut-être que ce concordat devrait-il s'imposer parce que on est la seule, les ailes sud d'une tradition religieuse qui fait qu'il y a 2300 lieux de culte, 2300 chefs, 2300 secrétaires généraux. Dans les autres églises, je les appelle comme ça, il y a un grand chef. Pour moi, la plus grosse douleur, cher Ghaleb, et vous la connaissez, c'est qu'une religion qui s'est construite à la base sur l'absence de clergé, en considérant que chaque être humain est assez adulte pour en tirer, le point fort devient son point faible. Puisqu'on passe de la liberté de chacun pour construire, pour Iqra, à la liberté de chacun pour interpréter. Donc j'ose dire ici, au risque de choquer ceux qui se reconnaissent dans le culte musulman, que nous avons aujourd'hui en France autant d'islam que de citoyens musulmans.
Voire de musulmans de par le monde.
Voilà, et je parle oui. de notre pays, la France. Oui. Et que c'est peut-être là où on doit tous se poser la question, est-ce que chacun de nous peut devenir un maître d'esprit? Je me rappelle donc un ministre dont j'ai oublié le nom qui disait « C'est très facile de faire catholique, protestant, il disait déjà à l'époque, ou toute autre religion, donc je mettrais l'islam, mais c'est très difficile de faire républicain. » Parce que dans le premier cas, on écoute le maître, on apprend par cœur, on répète. Dans le deuxième cas, on n'écoute même pas le maître et on discute avec le maître. Et c'est peut-être que c'est là le nœud gordien de notre avenir à tous.
France Culture, question d'islam, Ghaleb Bencher.
Aujourd'hui est une émission spéciale suite à l'assassinat abject du professeur Samuel Paty avec le journaliste et juriste Tarek Mami, avec la future anthropologue, puisque vous êtes doctorante, Hajar, mais vous êtes artiste, et artiste notamment dans le street art, et vous enseignez cela à la jeunesse, aussi bien dans les écoles que dans les milieux carcéraux. Et nous avons aussi l'éclairage du politiste et du sociologue Lyamine Setoul, maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Et vous êtes aussi dans le département la chaire de criminologie, c'est dire que votre regard nous est précieux. Hajar Mosbah, l'émission approche de son terme. Que préconisez-vous? Comment voyez-vous l'avenir? Quel est votre regard à la fois de citoyenne et de musulmane?
Je commence tout d'abord par la fameuse citation d'Averroès que l'ignorance mène à la peur et la peur mène à la haine. Et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Et pour être pratique, et pragmatique aussi, parce qu'il faut des actions maintenant, plus réel. Je crois qu'il faut avoir cette éducation à la diversité, non pas en unifiant, avoir juste en excluant les différences et chercher une unité univoque, mais plutôt enseigner la diversité comme une valeur fondamentale qui permet cette unité, ce respect de l'autre en tant que totalité. Et c'est pas grave si on n'est pas d'accord. Non, il faut qu'on soit pas d'accord. Il faut qu'on se met d'accord qu'on ne doit pas être d'accord et respecter la différence. Avec de la critique, avec de la avec la connaissance de l'autre et aller le chercher. Parce que quand j'ai eu l'information de ce qui s'est passé, je me suis dit, mais comment est-ce possible que la veille j'étais dans une certaine communion fraternelle où on était heureux et on a oublié nos différences, qui est musulman, qui est chrétien, qui est athée, qui est agnostique. Et le lendemain, désolée, je suis prise par l'émotion.
On subit ce qu'on subit comme geste barbare. Est-ce que pour cela, Yamin Setoul, il y a lieu de voir, avec l'autorité de l'État, comment endiguer la déferlante islamiste et surtout investir davantage dans l'esprit des jeunes gens qu'il faut aiguiser à oser penser par eux-mêmes, à ne pas rester une proie facile à ces doctrinaires, à ces idéologues et à ces criminels.
Oui, je crois qu'il faut essayer de prendre un petit peu de hauteur et montrer que même si ces actes sont terribles et sont sidérants, si on s'inscrit sur le temps long, en tout cas des deux dernières années, on a quand même un nombre relativement limité d'actions terroristes qui sont en plus commises par des acteurs avec des parcours extrêmement chaotiques, extrêmement difficiles à anticiper.
Parce que le travail des forces de sécurité et des renseignements généraux a porté.
Exactement.
Ça, c'est au titulaire de la chaire de criminologie qui nous le dit.
Tout à fait, il y a un travail des services, un travail silencieux mais tout à fait efficace. Qui fait que les actions dangereuses sont contrecarrées. Maintenant, il y a tout le travail à faire, je dirais, sur le terreau sociologique qui permet l'expression de ces phénomènes. Et ça, c'est un chantier beaucoup plus vaste, beaucoup plus important. Il me semble qu'il y a plusieurs pistes. D'une part, ne pas rompre le dialogue. Une des définitions de la radicalisation, c'est la rupture du dialogue. Et je pense pas que c'est en dissolvant des associations, des groupes, des collectifs qui critiquent la politique nationale ou gouvernementale qu'on va réussir à neutraliser le problème. Je pense qu'au contraire, il faut permettre à tout le monde de s'exprimer, de se rencontrer, même si ça crée bien évidemment des frictions. Rappelez également que 95%, voire plus, des Français de confession musulmane n'ont aucun souci avec la République, ils sont parfaitement intégrés. Ce sont des citoyens français qui travaillent dans l'armée, qui travaillent dans la police, qui travaillent dans tous les secteurs, et il me semble bon de le rappeler. Et puis enfin, faire prendre conscience aux Français que de son véritable visage sociologique. C'est-à-dire qu'on a un pays qui est extrêmement diversifié. On a la plus grosse communauté musulmane, bouddhiste et juive d'Europe. C'est lié à notre histoire. On a une histoire qui est mondiale, hein, une histoire coloniale, l'histoire des empires, les dom-toms, etc. Et cette diversité n'enlève rien à notre francité. Au contraire, c'est même une richesse dans un contexte de plus en plus globalisé, je pense.
Oui. D'aucuns peut-être ne le perçoivent pas comme ça, mais il faut que la République avance et fasse preuve d'autorité. Peut-être un dernier mot, si vous voulez bien, Tarek Mami, nous arrivons vraiment au terme de l'émission. À la réponse sociale, sociologique, les réponses éducatives, culturelles, il faut aussi une refondation de la pensée théologique.
On est complètement d'accord. D'ailleurs, à ce titre, je viens de vérifier comment Daniel Gimaret a traduit le livre El Milal wa Nihal de Charassan. Et lui, il l'a traduit des religions et des sectes.
Des religions et des sectes, voilà. C'est dire que voilà. Du temps de Charastani, oui.
On califat abbasside.
Sous le califat abbasside, donc on pouvait parler des religions, des sectes, voilà. Des groupes humains, voilà. Des différentes factions, en donnant l'une et l'autre sans aucune frilosité.
Voilà. Deux, peut-être, derniers mots.
Je vous en prie.
Je trouve que dans l'inconscient collectif politique français, dans les discours du président Macron au Miro le 2 octobre, il y a quand même quelque chose qui nous dépasse tous. La loi de 1905 s'appelait la loi de la séparation. La future loi d'aujourd'hui s'appelle séparatisme. Est-ce qu'on est si loin? Je me pose la question.
Il se trouve qu'on va l'appeler la loi de consolidation de la laïcité.
En tout cas, je parle du discours. Et je ne peux pas terminer cette émission sans vous remercier, cher Ghaleb.
Je vous en prie.
Et sans dire, est-ce que j'aime pas les comparaisons, mais l'histoire s'impose. Quand il y a eu l'assassinat horrible du père Hamel, l'Église de France a été merveilleuse dans sa réaction. Aujourd'hui, sommes-nous tous capables, ensemble, d'avoir une réaction de cet auteur? Vous me direz que l'Église de France, la France, c'est la fille aînée de l'Église, donc c'est 20 siècles. Est-ce qu'une religion présente de manière pérenne depuis 50 ans va avoir cette grandeur?
Oui, il faut avoir cette grandeur d'esprit, bien entendu. Il ne faut pas que l'effusion du sang soit vaine. Trop, c'est trop, et une vie humaine est une vie humaine, et elle est consubstantielle à la vie de l'humanité tout entière. Merci.
D'ailleurs, c'est un verset du Coran, et j'ai toujours un regret, parce que chaque fois que je vois le film de Schindler, la liste de Schindler, il y a cette phrase qui est un verset, et elle n'est pas imputée, et ça aussi de l'inculture. Elle n'est pas imputée au verset coranique, elle est inversée à la sagesse indienne.
C'est un passage du Talmud et c'est le fameux verset 32 de la sourate 5. Celui qui fait périr une vie humaine, il a tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve une vie humaine, il a sauvé l'humanité tout entière. Merci Talq Mami, merci Hajar Mosbah, merci Lyamin Setoul. Nous aurions pu en parler davantage, mais le temps qui nous est imparti est achevé, est fini. C'était Question d'Islam, chers amis auditeurs. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son est Manuel Couturier et la réalisation est assurée par l'ami Franck Lilin.